APH déroule le tapis rouge à la rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Philippe Van Leu, bonjour.
Bonjour.
Et tout d'abord, merci d'avoir accepté de passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays d'Hérault. Vous êtes présent à Pézenas pour la 62e rencontre cinéma de la ville. Vous êtes un réalisateur, scénariste, directeur de la photo belge. Mm-hmm. Vous avez étudié à l'INSAS de Bruxelles, mm-hmm. et ensuite à l'American Film Institute de Los Angeles. Ce qui peut expliquer votre présence ici dans le cinéma indépendant américain,
oui.
qui est le thème de
oui,
de
tout
la
à
rencontre.
Fait. Le focus que les rencontres font sur cette année.
Vous avez été en contact avec ce cinéma pendant que vous étiez étudiant à Los Angeles, ou vous, c'est un cinéma que vous avez découvert par la suite?
Oui, non, pour moi, c'est venu vraiment plus tard, effectivement, avec mon travail. D'abord comme chef-op ici en France avec des gens comme Dumont et Laurent Achard. Et donc au départ, l'école, c'était l'American Film Institute, c'est une institution très, très, très impressionnante, très centrale dans l'éducation supérieure américaine. Et donc c'est plutôt mainstream en effet. Donc, voilà, donc c'était quand même plutôt le cinéma installé, institut qui était la filière, si vous voulez. Alors avec en même temps des gens comme Martin Ritt, Al Ashby et compagnie, qui, sans être vraiment des auteurs indépendants, Robert Altman aussi, tous ces gens-là étaient soutenus par Universal ou Dieu sait qui, Paramount. Donc c'était des films de studio, en réalité. Il y avait une grande liberté à l'époque par rapport à ce qui se fait maintenant dans les majors.
Vous avez donc présenté six films. Comment caractériseriez-vous ce cinéma?
Je crois que ce qui est intrigant, dans autant le cinéma indépendant chez nous rayonne un peu dans tous les domaines, autant le cinéma indépendant américain est assez politique et engagé, me semble-t-il. C'est un cinéma qui cherche à explorer des situations humaines qui sont souvent des situations sociales, difficiles, compliquées. Mais ça remonte aussi à, je ne sais pas, quand je parle de Martin Ritt, je pense à Norma Rae, par exemple, avec Sally Field, qui était où elle jouait le rôle d'une ouvrière dans une usine, qui décide de former une cellule syndicale et qui se rend compte à ce moment-là de l'énormité de ce qu'elle est en train de faire, autant vis-à-vis de ses co-workers, de ses ouvriers, de ses collègues, que de la direction de l'usine. C'est violent. Hein.
Quel est l'impact de ce cinéma auprès du public américain? C'est un cinéma qui est correctement distribué, ou
C'est compliqué. Je pense que oui et pas forcément. Le cinéma d'auteur en tant que tel, le cinéma d'art et essai, auteur, est quand même cantonné à quelques salles. Alors il y en a dans toutes les villes. Par exemple, le dernier film que j'ai fait, moi j'ai tourné aux États-Unis, il y a une salle de cinéma qui s'appelle The Tube, et, à Tucson en Arizona. Et ils avaient une programmation formidable. Formidable. Donc il y a des salles partout. Mais la visibilité de ces films reste relativement confidentielle. Il n'y a pas moyen de faire autrement, à moins que tout d'un coup il y en ait un qui surgisse parce que il raconte quelque chose de tellement intense que tout le monde s'y intéresse.
Je me suis laissé dire qu'il y avait un certain nombre de réalisateurs qui avaient commencé par ce cinéma indépendant, un peu en marge des majors hollywoodiennes et tout ça, en marge de l'industrie cinématographique américaine, mais qui ensuite, du fait de l'impact qu'avait eu leur film, avaient quand même été assez bien récupérés. Quoi,
Oui, mais effectivement, ils sont sollicités à partir du moment où ça marche, effectivement. Mais par exemple, Kelly Reichardt, dont on verra le film ici, La Dernière Piste, qui a fait aussi First Cow, qui est son dernier film à ce jour, eh bien, elle persiste à rester indépendante parce qu'elle veut garder sa liberté. Le problème, si vous voulez, du cinéma indépendant, enfin le problème, l'avantage du cinéma indépendant par rapport au cinéma des majors, c'est que l'auteur garde le final cut, c'est-à-dire que le montage définitif, final du film, est celui que l'auteur a souhaité. Dans les majors, c'est la production qui décide de comment un film se raconte et quelle sera sa fin, en particulier. Et donc, ils veulent toujours que, quelque part, la fin soit consensuelle et qu'elle raconte quelque chose qui fasse plaisir aux gens. Il y a moyen de faire plaisir aux gens sans, pour ça, baigner dans une espèce de convention, si vous voulez, sur le bien-être. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire mieux que ça.
Bon, je le disais tout à l'heure, vous avez commencé donc par vous intéresser à l'image.
Oui.
Mais vous avez aussi été scénariste.
Tout à fait, parce que j'écris mes propres projets. Mais je ne suis pas un scénariste professionnel, si vous voulez. J'écris pour moi. M'arrive une fois ou l'autre, ça m'est arrivé deux fois, d'écrire pour des projets que je ne réaliserai pas. Mais ce n'est pas mon métier, si vous voulez. D'ailleurs, en fait, par rapport à l'écriture... je me suis toujours refusé à lire aucun livre, aucune méthode pour comment écrire un bon scénario. J'écris de manière intuitive et j'y crois. Et c'est ça qui fonctionne pour moi. Je pense d'ailleurs que les méthodes, soi-disant, sont systématiquement une forme de récupération et de formatage.
Si mes informations sont exactes, vous avez actuellement à votre actif trois films.
Ouais.
Le premier explore le conflit rwandais,
oui.
le jour où Dieu est parti en voyage. Mm-hmm. Le second, c'est une famille syrienne.
Oui.
Là aussi, vous vous intéressez au conflit syrien. Et puis, bien sûr, le dernier, The Wall, qui vous a amené à explorer la thématique de l'immigration illégale aux États-Unis.
Oui, alors ce n'est pas tant du point de vue de l'immigration, c'est plutôt du point de vue des forces de l'ordre. Mon projet est immédiatement lié à l'arrivée de Trump en 2017 au pouvoir aux États-Unis, à la manière dont il a pris le pouvoir, c'est-à-dire avec un sentiment de repousser les limites aussi loin que possible, c'est-à-dire donc finalement sans limite, ce qui donc bien sûr devient de l'abus de pouvoir et le sentiment d'impunité qui en découle, puisque finalement il n'y a pas de contrôle qui puisse être fait contre lui.
Les sujets sont quand même des sujets durs. Le Rwanda,
ouais. Oui, c'est vrai.
C'était pendant les massacres.
La genèse de mon projet, c'est en 1994, j'étais à Bruxelles et j'ai rencontré, au moment où, dans les premiers jours du génocide, une famille qui était amie d'amis, qu'on a brièvement aidé à se mettre, à avoir un petit peu de confort dans une maison qu'il possédait mais qui était vide, et qui avait été évacuée en urgence, et qui nous a raconté qu'ils avaient été obligés de tout laisser derrière eux, y compris la jeune femme qui s'occupait de leurs enfants, parce que seulement les gens équipés d'un passeport occidental pouvaient monter dans les avions, et cette femme est morte, bien entendu. Et je suis resté avec la peine, si vous voulez, de la souffrance que ces gens portaient en eux d'avoir abandonné cette femme. Je suis resté avec ce sentiment pendant des années avant de comprendre qu'il y avait moyen de l'écrire et de peut-être essayer de lui trouver un autre destin que cette mort certaine. Et donc j'ai écrit ça. Et à partir de là, ce n'était pas la première fois que j'écrivais, j'avais quand même écrit pas mal de choses avant, que j'avais... peut-être vaguement proposé ici ou là, mais qui n'avaient pas pris forme, qui n'étaient pas devenus des projets cinématographiques. Et donc là, pour le coup, je me suis dit que cette fois-ci, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et je l'ai fait. Et voilà, le film est là.
Et ce qui vous a amené à vous intéresser donc, au conflit syrien avec la famille syrienne, ça a été...
Alors c'était un peu différent parce que là, j'étais à Beyrouth pour, comme chef opérateur pour d'autres réalisateurs de films. Et j'ai fait ça en 2010-2011. Et j'étais... Tous ces gens m'ont raconté leur guerre. La guerre du Liban, Beyrouth, la ligne verte, cette ville déchirée, tout ça. Et ça a duré 20 ans. Et puis tout d'un coup, en mars 2011, les premières manifestations ont commencé en Syrie. Elles ont tout de suite été réprimées d'une manière extrêmement violente. Et je me suis dit tout de suite qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tout de suite. Quoi. Si je voulais intervenir, il ne fallait pas attendre 10 ans comme j'avais fait la première fois. Il fallait que ça se fasse tout de suite. Donc j'ai écrit quelque chose que je voulais, bref, facile à mettre en œuvre. Donc j'ai privilégié l'unité de temps, l'unité de décor, et voilà, ainsi de suite. Donc j'ai fait un huis clos de cette famille qui est piégée dans son appartement parce qu'en fait, il cherche à rester malgré tout, malgré les combats qui sont tout autour de chez eux. Et en même temps, ils sont piégés à l'intérieur parce qu'ils ne peuvent pas sortir à cause des mêmes combats. Et on voit la limite de ce qui est tolérable, parce qu'évidemment, finalement, la violence entre dans la maison au bout d'un moment, et que voilà, ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir rester là. Quoi. Et donc, ce qui était extraordinaire, c'est quand le film est sorti, quand il a été présenté pour la première fois au Festival de Berlin. Moi, je me suis rendu compte combien il touchait le public allemand, qui était ce public, qui était ce pays, qui était en train d'accueillir 800 000 réfugiés syriens, qui ne savaient pas où aller, qui étaient perdus, qui étaient repoussés dans pas mal de frontières. Donc mon film a vraiment donné un outil de compréhension à pourquoi ces gens étaient sur la route. C'est parce que... Voilà, si je peux faire 2 secondes de politique, l'extrême droite assène à sans répit que ces gens doivent rentrer chez eux, que voilà, qu'ils règlent leurs problèmes chez eux, et ainsi de suite. Les personnes qui choisissent de quitter sa famille, de quitter son foyer, de quitter son pays, quand on le fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix et que c'est une question de vie ou de mort souvent. C'est ça que les gens comprennent.
Oui, bon, dernières élections en Allemagne, on se rend compte quand même qu'il y a pratiquement 20% de gens qui sont sensibles au discours de renvoyer chez eux.
Oui, parce qu'on est passé dans une autre époque où l'information ne passe plus forcément par des canaux qui sont des canaux vérifiés, et que maintenant on peut tout dire et n'importe quoi, et que ça voilà, ça rayonne, ça SM. C'est assez tragique. On vit dans une époque de désinformation totale.
En ce qui concerne le troisième film, qui sera projeté donc dans le cadre de la rencontre, cinéma de Pesnas, The Wall, à l'origine de ce projet, on trouve quoi ?
Mais tout de suite, moi, j'ai voulu rencontrer ce personnage de Trump. C'est-à-dire que je... Et il est d'ailleurs en filigrane présent dans le personnage de cette femme, Jessica Comley, que je décris dans le film, qui est une border patrol, c'est-à-dire une policière des frontières, et qui est une jusqu'au boutiste, qui est animée d'une véritable animosité vis-à-vis de tout ce qu'elle ne reconnaît pas. En fait, elle ne reconnaît que les siens. C'est une culture aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très, très, très ancré, qui est aussi assez religieux, avec une foi que je considère, moi, comme dévoyée, parce qu'en fait, elle est exclusive. J'étais parti il y a quelques années auparavant sur la notion de ces communautés religieuses qui sont intolérantes. Et puis je me suis finalement dirigé plus vers la frontière et vers Trump, parce qu'en fait, les deux premiers films situent des victimes. Je m'attache aux victimes dans les deux premiers films, essentiellement. Et en face de la victime, il y a toujours un agresseur. Et donc le personnage de l'agresseur est un personnage étrangement fascinant quelque part. On a quand même envie de savoir, on a envie de l'explorer, on a envie au moins de le démystifier quelque part. Et donc je voulais pas le faire dans un état de chaos total, génocide ou guerre. Je voulais que ça se passe dans un état de droit, avec des règles, avec la loi, et que ce personnage soit représentatif et qu'il soit soutenu par la loi. Et donc l'uniforme, cette femme qui ne reconnaît rien, comme je l'ai dit, et qui est une jusqu'au boutiste, une sorte de Jeanne d'Arc en mission pour sauver l'Amérique, dans un désert où il ne se passe rien et où elle s'ennuie et où son ambition démesurée ne rencontre pas les défis qu'elle voudrait confronter. Et voilà, elle est très, très, très en colère, cette femme.
Ces idées-là vous sont venues après le premier mandat de Trump?
Même pas après, dès le début.
Oui.
Dès le début. Voilà, et je n'ai trouvé que des confirmations de ce que je pensais, de ce que j'imaginais, depuis que ce monsieur est au pouvoir. Oui.
Et on n'avait pas tout vu.
Et on n'avait pas tout
vu. Vous diriez que votre cinéma est engagé, militant, les deux?
Humaniste. Humaniste. J'essaye de me situer en dehors d'un camp. C'est-à-dire qu'autant, il est bien évident que quand je parle de cette femme rwandaise, je suis avec elle et je suis pour elle, contre la barbarie, contre le génocide. Il est bien évident que quand je suis avec cette famille syrienne à Damas, dans leur appartement, je suis avec eux contre la violence qu'ils auraient faite et contre le régime. Et il est bien évident que quand je parle ici maintenant de The Wall et où je ne me situe pas avec cette femme, mais où je l'observe, je l'explore, ce n'est pas la même chose. Je ne cherche pas à ce que le spectateur s'identifie à elle. Je suis aussi critique vis-à-vis de son action et plutôt en empathie avec ceux qu'elle pourchasse. Moi, je cherche l'humain, si vous voulez, et même en elle. Hein, je veux dire, souvent dans les débats qu'on fait à la fin d'une projection, il y a des gens qui me disent « mais elle est inhumaine, cette femme ». Et en fait, non, on est... Tout est profondément humain. Il n'y a pas de, sinon, voilà, on n'est pas des crocodiles.
Puis il y a toujours la marque de l'histoire personnelle.
Oui, et alors c'est ça. Il y a le parcours, il y a le parcours, et il y a, mais c'est pas une justification. C'est pas quelque chose qui dit ah bon, elle est comme ça parce que ci ou là. Tout ce qu'on fait, et c'est très intéressant de passer de l'autre côté, si vous voulez, d'essayer de comprendre l'autre côté. Tout ce qu'on fait en conscience, on est toujours dans une recherche d'être la meilleure personne possible. Elle aussi. Elle est convaincue que ce qu'elle fait, elle le fait pour le bien au minimum de sa communauté. Et que, donc voilà, elle ne se met pas délibérément en danger, elle ne se met pas délibérément du côté des démons, de nos démons. Mais... elle l'est, et c'est très étrange, parce qu'en fait, nous tous, nous avons des codes que nous respectons parce que nous ne voulons pas défier la morale. Et en fait, une fois qu'on dépasse, une fois qu'on passe de l'autre côté, on se rend compte que c'est juste une feuille de papier. Et si on devient mauvais, il n'y a pas de limite non plus. Et ce n'est pas pour ça qu'on se rend compte qu'on est mauvais. Au contraire, on peut se dire que là, même là, on est en train de faire ce qu'il faut pour que les choses, soi-disant, aillent mieux. C'est ça l'extrême droite.
À l'issue des discussions que j'ai pu avoir avec certaines de vos consoeurs ou confrères, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait très, 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 très souvent. C'est d'abord, il n'y a pas que du blanc et il n'y a pas que du noir.
C'est tout gris.
C'est, voilà, il y a des nuances.
Oui.
Et une autre chose que j'ai pu constater aussi, c'est que bien souvent, pour faire ressentir les choses et pour sortir, si vous voulez, de cette présentation qui est toujours, comment dire, par rapport à des groupes, par rapport à des nombres, des chiffres. Bon, par exemple, on parle de 40 000 morts sur la bande de Gaza, voire même plus. Mais qui font que, si vous voulez, on a une approche globale. J'ai l'impression que les démarches de beaucoup d'entre vous, c'est de ramener le problème dans le vécu d'une personne ou d'un petit groupe de personnes pour faire ressentir, alors comme vous l'avez expliqué, que ce soit du côté de la victime ou que ce soit du côté de l'oppresseur, pour faire ressentir ce qui peut y avoir comme conséquence à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils subissent.
Absolument. Même Spielberg, quand il fait Le Soldat Ryan, c'est Tom Hanks. C'est une personne. Et en fait, il faut que ça passe par là. C'est-à-dire que le cinéma a besoin de réalisme et de vérité pour pouvoir communiquer sur des sujets qui sont des sujets intimes. Et en réalité, il n'y a pas de possibilité à travailler sur le groupe. Claude Lanzmann parlait de l'impossibilité de représenter l'Holocauste et les camps par la fiction. Et il avait raison. Moi, si je réussis mon film sur le génocide au Rwanda, c'est parce que je m'attache au pas d'une seule femme. Si le fils de Saul, ce film magnifique, parvient à raconter les camps, c'est parce qu'il s'attache à un seul homme qui cherche son fils. Et c'est ça qui fonctionne. Le collectif est impossible. En plus, la promiscuité d'un camp est quelque chose d'impossible à refabriquer, si vous voulez, visuellement. Et les images d'archives sont imbattables là-dessus. On ne peut pas aller plus loin. Moi, j'essaie quand même que, même si je traite à des moments de violence extrême, parfois, que le spectateur ne se sente pas repoussé au point de se cacher le regard. Il faut qu'on puisse regarder tout. Et qu'on puisse avancer avec ça.
Chaque fois que vous avez présenté, vous avez proposé au public un de vos films, l'accueil a été assez chaleureux. Et vous avez également obtenu de nombreux prix.
Oui, c'est vrai.
Dans différents festivals. Comment vous réagissez à cette reconnaissance du public? Ça, je suppose que c'est important, puisque c'est quand même pour ça que vous faites ce que vous faites. Mais la reconnaissance
des
autres professionnels.
Ça fait un bien fou, mais l'essentiel n'est pas tant mon petit bonheur personnel, c'est que surtout ça donne une visibilité au film. Et c'est ça qui compte le plus. Parce que ce sont quand même souvent des films qui sont sur des budgets étroits, sur lesquels voilà, tout le monde paye un peu de sa personne parce que voilà, le budget ne permet pas d'avoir des conditions qui soient optimum, mais on fabrique malgré tout le meilleur film qu'on peut. Hein. On n'est pas... Et d'ailleurs, je pense que ces budgets qui sont parfois restreints sont aussi une condition de la réussite de ces films-là. Parce que si vous avez trop d'argent, ben finalement, vous ne sentez pas la même chose. Voilà. Donc, mais du coup, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens de promotion, si vous voulez.
Oui.
Donc, ce sont les festivals qui nous autorisent à exister. C'est par les festivals, par la reconnaissance des festivals, que nous avons l'accès au public, la vitrine dont on a besoin. Et ça, c'est formidable, ça.
C'est sans doute à ce moment-là que peut-être vous trouvez des propositions de distributeurs.
Entre autres, oui, tout à fait. Tout à fait, oui.
Dernière question, si vous permettez. Bon, vous mettez un certain temps à faire les films.
Ah, ça, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute.
Mais je suis persuadé que vous en avez... quelques-uns en tête,
hein, ah, j'en ai au moins trois qui sont écrits, là.
Qui pourraient être des projets.
Voilà. J'en ai au moins trois qui sont écrits et je pourrais en ressortir un ou l'autre. C'est tout ce qu'il me faut. Non, le problème, c'est le financement. C'est peut-être que moi, dans mon fonctionnement, il y a quelque chose qui fonctionne un peu bizarrement. C'est que j'ai beau avoir un projet ou l'autre d'avance, je n'en fais qu'un à la fois, donc il faut que j'arrive au bout de celui que je suis en train de faire pour envisager autre chose, et que assez souvent, même à chaque fois jusqu'à présent, tout d'un coup, une fois que j'ai les mains libres, que j'ai rendu le film que j'étais en train de faire et que je peux m'attacher à autre chose, tout d'un coup, j'ai envie de faire quelque chose de neuf. Et donc, je prends 3 mois à écrire une nouvelle histoire, voilà. Parce que tout ce qu'on fait et se confronte et se frotte à tout d'un coup, parce que le film que je viens de terminer se frotte à la réalité, au contexte et tout ça, et que tout d'un coup, il évoque d'autres situations, d'autres choses que j'ai tout d'un coup envie de, dont j'ai envie de m'emparer. Mais là, j'ai vraiment au moins trois films que je pourrais faire dès demain si j'avais déjà l'argent.
De la même veine que les premiers.
Que malheureusement, notre monde ne connaît pas de répit. Et j'ai un projet sur la guerre d'Ukraine. Pour le moment, on est dans les premiers efforts de financement. Donc, si tout va bien, mais vraiment, il faut être très optimiste pour dire ça, si tout va bien, on pourrait espérer tourner au printemps 26. Voilà.
Philippe Van Dieu, merci beaucoup.
Ben merci à vous, Jean.
D'avoir consacré une partie de votre matinée à cet entretien.
Merci.